Donc, je suis avec Michel. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Vous avez une longue expérience de métier que beaucoup de gens ne connaissent pas, hein, et qui sont, bon, on veut dire, dans la manutention, dans des métiers, je ne sais pas si on peut appeler ça de service, d'endroits, des plateformes, par exemple. Donc, comment on pourrait faire un petit peu le bilan de vos expériences professionnelles? Votre première expérience, par exemple?
C'est une entreprise qui frappe des pièces automobiles. Donc j'ai travaillé sur des presses à âmenage. C'est des bobines d'acier ou d'autres matières qui sont amenées dans une machine et qui sont tapées pièce par pièce dans la machine pour donner la forme. La forme, par exemple, d'une biellette, d'un marchepied qu'on met sur les voitures, ou des pièces de table de ping-pong ou des choses comme ça. Et donc on est devant une machine pendant toute la journée. Il y a le changement d'outils. C'est des outils de plusieurs tonnes qu'on vient mettre dans la machine. Ensuite, faut les monter à la main. Donc il n'y a pas vraiment d'aide à part un clerc, les clercs à deux fourches. Donc on vient positionner l'outil avec un clerc à l'intérieur de la machine. Donc il faut être précis pour pas abîmer l'outil. Une fois qu'il est positionné, donc on vient le visser à la machine, à la main, bien sûr. Et une fois que l'outil est monté, donc on vient positionner une bande. Donc du coup, comme c'est des rouleaux, il faut les passer dans des dérouleurs. Donc à la main, on vient prendre le bout de la bobine, on découpe le cerclage qui maintient la bobine. Une fois que l'embout il est positionné dans le dérouleur, il faut que ça soit bien serré parce que quand on découpe le cerclage, la bobine elle risque de reculer. Donc faut le faire avancer dans l'outil et positionner correctement pour que la bobine en fait elle puisse entrer bien droit dedans. Enfin la machine c'est une presse qui vient donner une pression de plusieurs tonnes donc sur la bobine. Et en fait c'est un peu comme une mâchoire. Ça se referme sur la bobine et ça fait un choc entre les deux. Et donc la pièce elle ressort en bout. Au fur et à mesure que la bobine elle avance, ça tombe dans un bac. Ensuite, on trie les pièces. Et une fois qu'on a trié les pièces, on commence en fait ainsi de suite comme ça.
Donc, on va dire dans cette façon de produire, il y a des machines, il y a des hommes.
Oui.
J'imagine qu'avec le temps, donc des machines de plus en plus performantes et moins d'hommes pour s'en occuper. Donc, vous, quand vous avez travaillé, vous étiez à un moment dans une entreprise où il y avait, je ne sais pas si on peut dire ça un équilibre, mais un point entre le travail humain et le travail de la machine. Est-ce que pour vous, à terme, vous pensez intéressant que plus de travail soit fait par des machines et moins par des hommes, par exemple?
Ça dépend, parce que les machines remplacent certaines choses dans la production. Donc pour les personnes qui travaillent, justement, des fois ça allège certains points dans le métier. Le problème, c'est que du coup, on nous demande beaucoup plus de travail. Donc c'est-à-dire qu'il y a moins d'hommes sur le poste de travail, mais beaucoup plus de travail pour la personne.
Donc ce travail humain, il est de quel ordre? Il est beaucoup physique ou plutôt de l'ordre de la vigilance, de l'ordre aussi de la capacité à agir pour que les choses se passent bien?
Ben, c'est un petit peu détroit, en fait. C'est beaucoup physique parce que ben faut être toujours concentré parce qu'on comme on a plusieurs choses à faire en même temps. Du coup, il faut faire attention à la production, donc la qualité de ce qu'on est en train de faire. Il faut faire attention aussi à la sécurité, parce que comme on travaille sur plusieurs choses en même temps, il y a des choses qui peuvent se produire à côté, et si on ne fait pas attention, ben ça peut créer soit des dégâts sur la machine, ou des accidents de travail.
Donc par rapport à cet équilibre justement entre sécurité, efficacité et qualité, est-ce qu'il y a un temps, une durée possible de travail dans la journée, voire même dans l'année, pourquoi pas même dans la vie, comment on peut envisager les choses de manière durable, en étant efficace, tout en étant en sécurité?
Ce genre de travail, c'est 8 heures par jour, c'est très bien. Mais par contre, pour la durée dans une vie, il faut compter à peu près une dizaine d'années. Et encore, certains métiers, c'est très peu de temps.
Ce qui veut dire de changer de poste, voire d'emploi, pour ceux qui travaillent sur ces tâches-là, et d'être remplacé. Comment ça se passe dans une entreprise? Vous avez vécu un peu ça?
Oui, c'est le changement de poste justement pour éviter soit la redondance, donc toujours faire le même travail, les mêmes gestes répétitifs. Car dans ces métiers-là, pour ma part, ma propre expérience, ayant travaillé dans des emplois qui justement étaient très physiques, j'ai des problèmes du coup d'articulation. Donc à cause du mouvement répétitif, aussi des charges et de la cadence, surtout la cadence, parce qu'à l'heure actuelle on demande beaucoup de cadence. Il faut absolument produire, et plus on y arrive et plus on nous demande encore plus. Donc il faut toujours augmenter la cadence, peu importe la cadence qu'on a de base.
Donc dans l'entreprise, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui font le même travail, la même fonction? Et est-ce qu'on peut justement comparer les cadences pour l'employeur, hein, pour garder ou se séparer de la personne qui serait la moins productive?
Oui, il y a plusieurs personnes qui font le même travail. Et justement, c'est celui qui va arriver et qui va montrer plus... qui est plus motivé qu'un autre, qui va pouvoir rester. Mais par contre, c'est au risque et péril, parce que justement, c'est physique. Enfin, les articulations sont mises à rude épreuve. Porte de charge lourde, le dos il prend cher. Les articulations au niveau des coudes, des poignets et surtout des épaules. Parce que c'est hyper fragile. Et justement, dans ces métiers-là, pour vous donner un exemple, à l'heure actuelle, je dois faire une radio dès demain, parce que justement, j'ai les doigts, les articulations des doigts qui ont pris cher dans un de mes derniers travaux que j'ai fait. Et j'ai des douleurs permanentes dans les doigts.
Donc, dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des inspecteurs du travail ou est-ce qu'il y a des médecins qui expertisent au bout d'un moment où vous en êtes de votre état physique, de santé aussi? Et est-ce que par la suite, quand vous quittez ce travail, une fois que vous avez, je ne vais pas dire un handicap, mais des difficultés qui ont été repérées, hein, pour justement ces articulations ou autre chose, est-ce que c'est une difficulté pour être embauché dans d'autres entreprises de genre de secteur, on va dire?
C'est seulement par rapport à la médecine du travail, ça. C'est si vous avez passé votre dernière visite médicale, et que c'est noté. Si c'est noté, l'entreprise, oui, peut avoir une réticence à vous reprendre, parce que justement, comme vous avez déjà des problèmes de santé, c'est soit, donc eux, ils ont des postes à pourvoir qui sont moins physiques, donc du coup, ils peuvent quand même vous prendre. Mais s'ils en ont pas, vous ne serez pas pris pour ça. Ils vont pas forcément vous le dire, mais ils ne vous reprendront pas.
Donc, ces métiers physiques, on peut les réaliser jusqu'à quel âge? On va dire, on parle beaucoup en ce moment de retraite. Est-ce que ça a un sens, la retraite, dans ces métiers-là? Est-ce qu'on capitule avant? Et est-ce qu'il faut se recycler vers d'autres métiers moins physiques?
Ma dernière expérience, là, justement, on était une équipe aussi composée aussi bien de jeunes que d'anciens. Et dans les anciens, il y avait une personne qui avait plus de 60 ans. Elle travaillait avec nous. Et bien sûr, les chefs enfin les supérieurs, ne demandaient pas forcément à la personne-là de travailler à la même cadence qu'une personne plus jeune. Mais par contre, il faut suivre quand même la cadence. Il y a toujours ce port de charge et cette cadence qui demande à faire. Mais ça, c'est aussi par rapport au poste qu'il y a à pourvoir. Donc comme dans cet emploi, on était quasiment tous sur les mêmes postes, ils étaient positionnés surtout sur les endroits où la cadence était un petit peu moins élevée. À partir du moment où dans une entreprise, la cadence partout est la même, ces personnes-là, ils perdraient vite leur emploi. Donc moi, je dirais, dans ces entreprises ou dans ces métiers-là, l'âge, je dirais à partir de 40-50 ans. 50 ans, là, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour les personnes de 50 ans et au-dessus.
Donc, il y a quelques années, vous m'avez parlé d'une expérience professionnelle où vous travaillez sur des palettes et vous étiez assez fier de dire que vous aviez fait autant de palettes dans la journée, enfin voilà, par rapport à d'autres qui en faisaient un peu moins. Et vous pensiez avoir peut-être plus de chances d'être intégré de manière durable à l'entreprise. Vous vous souvenez de ça ?
Oui, oui. D'ailleurs, c'était pas des palettes, hein. C'était des caisses en bois, donc de fruits et légumes. Donc, on fabriquait les caisses. C'est une chaîne de production. On commence par des lattes de bois et ça finit. En fait, la fin de la production, c'est des caisses en bois. Et moi, j'étais à la fin. Au début j'ai débuté comme tout le monde, hein. Je prenais les caisses et je les posais sur les palettes. Il fallait faire des palettes de 8 étages et à la cadence de la machine. Donc il fallait vraiment courir pour remplir les palettes. Et j'étais fier parce que il y avait des personnes qui tenaient pas plus d'une journée, même voire j'ai déjà vu une personne partir au bout de 20 minutes en pleurs parce qu'elle n'en pouvait plus, la cadence était trop rude. Et j'ai tenu quand même pendant 2 mois sur ce poste-là. Et ensuite, j'ai évolué un petit peu. Je me suis occupé de l'emboîtage. Je faisais aussi de la mise en palette, hein, mais je passais aussi à l'emboîtage. Donc, du coup, ça rendait le métier moins difficile. C'était moins compliqué. Mais bon. L'emboîtage, enfin c'est quelque chose qui est simple à faire, mais les choses qu'on ne voit pas, c'est justement avec la cadence, le geste répétitif, devoir faire tout le temps le même geste. C'est, comme je disais tout à l'heure, ça use les articulations. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que même sur des postes où la cadence reste correcte, et que le travail est moins physique, que il y a les mêmes risques en fait que quelqu'un qui fait un travail où il va porter des grosses charges lourdes, où il va avoir beaucoup de travail dans une journée, où il va faire des journées de 10-12 heures, même si nous on en faisait à peu près 8 heures par jour. Moi, j'en faisais un peu plus parce que après en fait ils ont installé un robot qui faisait l'emboîtage lui-même et il cerclait et il faisait les palettes lui-même. Moi je me suis retrouvé à gérer mon côté parce qu'il y avait deux chaînes de production. Donc ce que je faisais, c'est que les caisses elles arrivaient à l'emboîteuse. Elle prenait 2 caisses, elle les mettait l'une ensemble, les deux ensemble. Les caisses passaient, ils arrivaient devant moi, et moi je réemboîtais parce que souvent c'était mal emboîté, donc il fallait que je réemboîte les caisses, que je contrôle chaque agrafe sur chaque caisse. Je devais aussi réparer les caisses. Quand il manquait des agrafes, il fallait remettre des agrafes. Quand il y avait des caisses de cassé, il fallait les mettre de côté. Il y avait un intérimaire qui venait, il récupérait la caisse, il réparait la latte, il venait la ramener. Donc il fallait remettre sur le tapis, réemboîter à la main, remettre sur le tapis. Il fallait surveiller le passage au robot. Donc au début, Le robot, lui, il prenait les deux caisses qu'ils étaient emboîtées, il les mettait droite, et ensuite, il faisait un paquet, par exemple, de 5 caisses emboîtées, et une fois que c'était fait, il faisait des rangées pour pouvoir mettre sur la palette. Donc, c'est des fois, c'est 2, 3 rangées suivant la taille de la caisse. Ensuite, ça passait dans une lieuse, et là, une fois que le cerclage était posé, il y avait une pince qui prenait le dessus, qui posait sur la palette. Et il fallait surveiller tout ça, parce que la moindre caisse qui était de travers pouvait faire que le robot écrasait tout le paquet. Donc après, le robot était bloqué, donc il fallait tout enlever.
On comprend bien que dans ces entreprises très physiques, où il faut produire des choses ou conditionner des choses, il y a une articulation du travail entre l'homme et les machines. Comment vous voyez dans le temps le rapport entre l'importance du travail humain et la place prise par les machines?
Pour mon avis personnel, les machines ne prennent pas forcément la place de l'humain, parce qu'il y aura toujours quelqu'un derrière pour pouvoir les réparer. Parce qu'il faut les régler, faut les réparer. Il y a tout le temps une panne quelque part. Et même si on remplaçait, par exemple, celui qui répare la panne par un robot, il faudrait encore quelqu'un derrière pour pouvoir réparer le robot en lui-même. Les programmes ne peuvent pas se créer tout seuls. Et même s'ils arrivaient à trouver une intelligence artificielle pour créer le programme de la machine, il faudrait quand même quelqu'un encore derrière pour l'intelligence artificielle vérifier, contrôler que tout est correct. C'est vrai que ça allège l'entreprise du nombre de salariés à l'intérieur. Ça, c'est clair. De toute façon, sur tous les travaux que j'ai effectués là, enfin, leur but, c'est de justement diminuer le nombre de personnel. Dès qu'ils peuvent enlever une personne, ils en enlèvent une. C'est pour ça que je disais la cadence, parce que s'ils arrivent à trouver une personne qui arrive à gérer la cadence, mais en plus en faire un peu plus, ça leur permet de supprimer une personne. Enfin, souvent, on ne se rend pas compte, c'est qu'on donne beaucoup, justement, pour pouvoir effectuer le travail et essayer de faire mieux que les autres. Et le problème, c'est que l'entreprise, quand elle s'en rend compte, elle demande encore plus. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans une équipe où on était 3 à gérer plusieurs postes de travail en même temps. À une certaine heure, en fait, ils doivent renvoyer des gens parce que c'est seulement les contrats qui devaient rester. Et ils ont renvoyé les personnes et ils m'ont laissé tout seul, en fait, pour remplacer 3 personnes. Parce qu'ils savaient que je pouvais gérer tous les postes en même temps. Et du coup, ça fait des personnes en moins. Donc les personnes, ils peuvent pas faire soit des heures sup ou terminer leurs heures. Ils sont obligés de partir avant. Mais le problème, c'est que moi, je peux pas refuser, en fait. Je suis obligé de... Donc du coup, même si c'était dur pour moi de gérer tout, c'était obligatoire. J'étais obligé de suivre cette cadence-là imposée, parce que eux savaient de quoi j'étais capable, moi. Une fois qu'on a montré ce qu'on sait faire, ensuite, le plus dur, c'est de l'assumer aussi. Parce qu'on se dit que justement, les chefs, ils savent ce qu'on a donné. Donc maintenant, quand ils viennent nous voir pour nous dire « Écoute, aujourd'hui, ça t'a diminué un petit peu, ou alors que tu essaies juste de te caler sur la performance des autres », ils viennent automatiquement te voir pour te dire « Ben écoute, là, faut que tu accélères parce que ça va pas ».
Donc j'imagine que le chef du personnel... son métier, une partie, hein, c'est justement de voir les compétences, voir jusqu'où on peut amener les gens à produire davantage, hein, et après se séparer des personnes moins utiles.
C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. C'est pas son boulot de base, hein, parce que si on lui montre pas, il va pas aller le chercher. Il va pas aller chercher. Mais il faut qu'il le voie, parce que s'il ne perçoit pas les personnes, justement, qui peuvent en faire beaucoup, il peut se retrouver avec une équipe qui est au-dessus de ce que l'entreprise voudrait de base. Si par exemple une équipe elle est de 8 personnes et qu'en réalité, dans la réalité, ils ont besoin que de 6 personnes, Il faut que le chef d'équipe puisse le voir, ça. Si les 6 personnes peuvent faire le boulot de 8, il faut qu'il supprime 2 personnes dans l'entreprise. Et à l'heure actuelle, c'est ce qu'ils cherchent justement. Ils cherchent des personnes qui en feront un maximum. Et il y a beaucoup de personnes aussi, enfin, tous ceux que j'ai vus passer, il y en a beaucoup, ils connaissent ça et ils vont pas vouloir en faire plus. Mais le problème, c'est que ces personnes-là vont pas rester dans l'entreprise. C'est pas qu'ils sont pas motivés, c'est qu'ils savent que s'ils en font beaucoup, ils vont se faire avoir à un moment donné.
Donc, la place des robots, on voit qu'elle se développe, hein, dans les entreprises, notamment pour prendre une part du travail qui est soit difficile, soit même impossible dans des cadences élevées, sur des responsabilités un peu différentes des personnes qui sont dans l'entreprise. Que peut-être dans cette entreprise, il y a une hyper, on va dire, spécialisation des personnels, dans la mesure où de plus en plus ces personnes doivent être compétentes pour analyser les process, voir ce qui va, ce qui ne va pas, faire les corrections nécessaires. Est-ce que les personnes qui, on va dire, ont un rôle plus important, vu qu'il y a des machines, ont aussi une formation qui s'adapte à ça pour les amener à un niveau supérieur, voire à des salaires supérieurs?
Oui, il y a des formations qui sont proposées parce que les machines deviennent compliquées. Le robot d'emboîtage pour les caisses que j'ai dû gérer. Il faut savoir faire le programme, enfin pouvoir changer le programme, pas forcément le faire. Il est fait de base par des programmateurs. Et nous, en fait, il faut absolument savoir le programme, comment on fait, sur quelle touche il faut appuyer. Bon, soit ils donnent une formation, ou soit on peut aussi apprendre sur le tas. Avec, par exemple, les collègues. Par exemple, si on arrive dans l'entreprise et que la personne à côté, ça fait longtemps qu'elle travaille là, elle peut nous apprendre à travailler sur la machine et nous montrer comment ça fonctionne. Après, il y a d'autres postes où il faut suivre une formation pour pouvoir gérer le poste de travail.
Est-ce qu'il y a un intéressement à l'évolution, évolution de carrière ?
Oui, oui. Beaucoup de mes anciens collègues, justement, cherchaient à évoluer dans l'entreprise. Il y a une des entreprises où j'ai été, où on nous donnait un talkie-walkie. Donc ça nous donnait un grade supplémentaire. C'était pas officiel, hein. C'était vraiment, on avait plus de choses et plus de responsabilités, justement, ça nous donnait plus de responsabilités, donc on cherchait à ça, et donc juste au-dessus de ça, en fait, il y avait un poste qui nous permettait de gérer toute une équipe, donc on devenait presque chef, en fait, d'une équipe complète, et qui pouvait nous permettre aussi de passer... une étape au-dessus, devenir chef.
Voilà, donc effectivement, ce sont des métiers, des fonctions, des conditions de travail assez peu connues du grand public, parce qu'on ne voit que peu de reportages dans notamment les chaînes de télévision. Hein. Je ne suis pas sûr même que ceux qui représentent la population, les députés, les sénateurs aient une réelle conscience des conditions de travail. Ce serait bien pour eux qu'ils fassent un stage ouvrier.
Oui, oui, parce qu'il y a certains postes de travail qui sont vraiment, vraiment très, très durs. Dans la caisserie, là où j'ai travaillé, c'était vraiment un boulot... on est traité un petit peu comme un chien. Hein. C'était vraiment très, très difficile. Je commençais à 7h45 au matin. On me demandait de rester après 17h, des fois jusqu'à 21h au soir. Et recommencer le lendemain, comme ça, et sachant qu'à mon poste de travail, je faisais à peu près 6 ou 7 travails en même temps.
Bon, des conditions de chien, alors. Je sais pas ce qu'il en pense, le chien. Voilà, le chien a l'air d'accord. Une vie de chien, c'est pas forcément pire.
Non, je crois qu'ils sont bien plus tranquilles que nous, je crois.
Merci Michel, bon courage.
Merci, bon courage à vous aussi.